to Paris. Welcome to the Grand Palais.
L'intelligence artificielle, on ne parle que de ça dans ce prestigieux bâtiment parisien. La France accueille le 3e grand sommet mondial sur le sujet. Et elle compte prendre sa place dans ce marché qui fascine et inquiète à la fois. Emmanuel Macron se veut rassurant.
On va continuer de défendre le droit d'auteur, les droits voisins. On va continuer de préserver la créativité humaine. Et tout ça, ce seront des assistants qui nous permettent d'aller plus vite. Mais pas quelque chose qui, en quelque sorte, nous conduit à renoncer au monde auquel on croit.
Dans ce sommet, il y a des annonces d'investissement. Hier soir, Emmanuel Macron a parlé de 109 milliards d'euros venant du privé pour développer l'IA en France. Reste que les États-Unis et la Chine, bien présents au sommet, ont une sacrée longueur d'avance.
Si on fait un calcul, effectivement, un peu sur un coin de table, mais de simplement essayer de voir quel est l'écart d'investissement entre l'Europe et les États-Unis depuis entre 10 et 15 ans sur le numérique et son infrastructure, on est sur des ordres de grandeur qui sont autour de 1500 milliards d'euros probablement. Donc ce sont des montants tout à fait colossaux et qui ne tiennent pas encore compte des 500 milliards d'investissements tout frais que Trump vient d'annoncer il y a 2-3 semaines.
Le sommet aborde aussi les répercussions de l'intelligence artificielle, positives comme négatives. Elle bouscule déjà notre quotidien avec un impact sur l'emploi, la vie privée ou encore sur l'environnement, avec des data centers souvent énergivores. Demain, place au chef d'État. Il devrait s'entendre sur une déclaration finale. Mais qui va la signer? Que va-t-elle contenir? De nombreuses voix réclament une technologie plus transparente et mieux régulée.
Investit-elle aussi de plus en plus dans l'intelligence artificielle?
Alors oui, même si évidemment ces investissements ne peuvent pas être comparés aux investissements de nos voisins, la Belgique investit bel et bien dans l'intelligence artificielle avec une enveloppe d'abord dédiée à la recherche, une enveloppe qui n'évolue pas d'année en année, 5 millions d'euros est dédiée en Wallonie à la recherche chaque année, et une autre enveloppe est dédiée, elle, au financement de projets très concrets dans les entreprises pour implémenter l'intelligence artificielle, et là, eh bien on peut remarquer que cette enveloppe elle augmente d'année en année avec 7,3 millions d'euros qui ont été investis l'année passée pour cette enveloppe. Mais ici, on ne prend en compte que les investissements publics en Wallonie. On sait aussi évidemment qu'il y a des investissements privés.
Oui, justement, les entreprises belges ont-elles souvent recours à cette intelligence artificielle?
Oui, en Belgique, plus qu'en moyenne en Europe. Vous allez le voir, en Belgique l'année passée, eh bien, on estimait que plus ou moins un quart des PME utilisaient déjà l'intelligence artificielle. Et ça, c'est déjà le double par rapport à l'année 2023, c'est-à-dire la progression fulgurante dans nos entreprises. Et quand on regarde par rapport aux autres pays européens, eh bien on peut voir tout simplement que la Belgique fait partie du top 3 des pays qui utilisent le plus l'intelligence artificielle dans les entreprises, juste devant la Suède et le Danemark, et surtout bien loin devant les entreprises françaises, italiennes ou encore espagnoles.
Et restons chez nous, quel type d'entreprise utilise l'IA et pourquoi?
En fait, plus l'entreprise est grande, plus elle utilise l'intelligence artificielle. Les petites, mais surtout les moyennes entreprises utilisent, on l'a déjà dit, plus d'un quart d'entre elles utilisent déjà l'intelligence artificielle. Et pour les toutes grandes entreprises, donc de plus de 250 employés, c'est même 2/3 des entreprises qui utilisent déjà l'intelligence artificielle, avec dans le top 3 des fonctions les plus utilisées, d'abord l'analyse du langage écrit. Là, typiquement, c'est ce que vous utiliseriez pour corriger l'orthographe d'un texte, le traduire ou bien trier vos mails. On a aussi l'automatisation et la prise de certaines décisions. Et puis enfin, on a les technologies qui génèrent du langage écrit ou parlé. On pense évidemment à un exemple très connu, celui de ChatGPT.
Merci à vous, Jenny.
Je trouve qu'il fait très jeune, ce bracelet connecté qu'elle porte au poignet dans sa résidence bruxelloise.
C'est un bracelet qui, en cas de problème, une chute ou se cogner n'importe quoi, on appelle au secours en poussant sur le petit bouton rouge.
Et si vous tombez et que vous ne savez pas pousser sur le bouton?
Eh bien, s'il y a un choc, automatiquement, il se met en route. Et quelqu'un arrive et vient demander comment ça va.
Ici, les 62 résidences sont équipées du bracelet, un système plus sécurisant que ce qu'il y avait avant.
Auparavant, il devait aller pousser sur un boîtier qui était au mur. Si la personne était au sol, elle ne savait plus rien faire.
Pour savoir si Julienne fait un simple appel ou est tombée, l'intelligence artificielle a été entraînée.
Pouvoir fiabiliser cette détection de chute, il y a un ensemble de données de chute qui ont été collectées et cette base de données s'enrichit au fur et à mesure. Le système a également la capacité d'apprendre les habitudes de vie de la personne. L'exemple type, c'est une personne âgée, un rythme de vie assez standardisé. Elle se lève tous les matins à 7h, à 9h, elle ne s'est pas levée. Alerte.
Madame Supli.
Rendons maintenant visite à Armande, dans la région de Charleroi. Aujourd'hui, on est venu tester dans sa chambre un assistant de soins particulier.
Et Kandou, affiche le plan de soins.
Voici le plan de soins.
Il retranscrit les soins donnés, rien qu'à la voix des soignants.
Leurs tâches administratives vont être faites directement dans la chambre. Donc, un, elles ont la bonne information, elles peuvent la transmettre directement et valider les soins directement à la voix. C'est très fluide, c'est très facile. Et donc, après, ce temps gagné, ben, elles peuvent le passer à d'autres tâches et passer du temps avec le résident.
Et ce n'est pas du docteur Google, mais du Made in Belgium.
On est sur un marché émergent du côté des soins aux personnes âgées, parce qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées, hein, ça on le sait bien. Et on est vraiment convaincus que, justement, utiliser ce genre de technologie dans ce cadre-là va leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie.
C'est une bonne chose, mais on va savoir beaucoup de choses qu'on ne devra peut-être pas savoir.
Visiblement, Madame Supli a un atout sur la machine, son intelligence critique.
L'ordinateur et les smartphones nous obligent régulièrement à mettre à jour des programmes, voire des systèmes d'exploitation, ce qui rend parfois les appareils inutilisables. Et je me demandais si on peut dire qu'il s'agit de politiques d'obsolescence programmée, et est-ce qu'il y a des lois qui luttent contre ce genre de politique ?
Isaline, vous avez mis le doigt sur un cas d'obsolescence lié à l'évolution des nouvelles technologies. Vous avez un smartphone, peut-être un peu ancien, mais malheureusement, il n'accepte plus de nouvelles mises à jour. Résultat, les applications cessent de fonctionner les unes après les autres et vous devez changer d'appareil parfois à contre-cœur. Alors, pour bien situer le système d'exploitation d'un smartphone, c'est un petit peu son cerveau, c'est le moteur qui permet aux différents composants du téléphone de fonctionner ensemble. Et la sortie de nouveaux smartphones s'accompagne aussi de mises à jour quand de nouvelles puces sont mises dans ces smartphones, et ces mises à jour, eh bien, elles ne sont pas toujours compatibles avec les modèles plus anciens. Si vous prenez un iPhone 6, par exemple, sorti en 2016, ou un Samsung Galaxy, sorti la même année, eh bien, impossible de les mettre à jour vers le système d'exploitation de la dernière version iOS ou Android, parce que voilà, ils ne sont pas toujours compatibles. Vous pourrez encore téléphoner avec, mais c'est à peu près tout.
Alors aujourd'hui, Ambroise, si j'achète un nouveau smartphone, il pourra être mis à jour pendant combien de temps, en fait, après sa sortie et mon achat ?
Alors, c'est un paramètre auquel on ne pense pas toujours en fait quand on achète un téléphone. Aujourd'hui, la tendance, c'est entre 5 et 7 ans de mise à jour du système d'exploitation à partir de la date de sortie du téléphone, mais ça peut aussi être beaucoup moins. En fait, ça dépend un petit peu de la marque et du modèle de téléphone. Et quand je dis que ça peut être moins, il y a un cas, c'est la marque chinoise OnePlus. Ils ont sorti un téléphone en 2020 et 3 ans après, ils ont cessé d'assurer les mises à jour là-dessus. Ce téléphone, il était moins cher que ses concurrents, mais sa durée de vie, il était aussi limitée.
Et existe-t-il une loi qui concerne justement cette obsolescence programmée des systèmes d'exploitation ?
Alors, il n'y a pas de loi au sens propre, mais des constructeurs comme Apple, par exemple, ont déjà été condamnés à des amendes pour avoir volontairement limité les capacités de leurs anciens iPhones au moment d'en sortir des nouveaux. Et ça, en plus, ils l'ont fait sans prévenir les utilisateurs. Et alors, concernant les mises à jour de sécurité, là, on parle des correctifs qui empêchent les pirates informatiques d'accéder à vos données. Là, le droit européen impose de maintenir des mises à jour pendant 5 ans après la date de sortie de l'appareil.
Merci.
L'image peut paraître bien calme, et pourtant ces visiteurs vivent en immersion l'histoire de Napoléon, de ses premières victoires à ses défaites légendaires et à son exil à Sainte-Hélène. Le casque immersif plonge le visiteur dans un passé virtuel où il évolue à 360 degrés, vivant aux côtés des soldats en pleine bataille d'Austerlitz, tentant d'éviter les boulets de canon ou les charges de l'armée napoléonienne. Impériale qui a nécessité plus de 2 ans de travail à la société Sandora qui a réalisé l'expérience immersive visant à raconter une histoire réelle de façon spectaculaire.
C'est créer l'étonnement et créer l'émerveillement. Créer l'étonnement parce que vous avez une charge de cavalerie qui vous arrive dessus et vous vous y attendez pas. Et donc vous vous retournez et vous êtes étonné de la voir. C'est peut-être un étonnement assez important dans cette expérience qui est pour moi le plus important de l'expérience. Et de l'émerveillement, c'est la scène à la fin sur le bateau où on est sous un ciel magnifique, un bateau qu'on a reconstitué assez magnifique aussi, et on est voilà, dans l'intimité de Napoléon, l'empereur qui va vivre ses derniers jours à Sainte-Hélène.
Difficile sur un écran de télévision de traduire l'impression que donnent ces images lorsqu'elles sont diffusées en 3D à 360 degrés dans le casque. L'expérience est spectaculaire, l'immersion fonctionne tellement bien qu'on éprouve des vertiges lorsque les images nous font survoler les réalisations napoléoniennes ou si l'on manque de tomber dans la rivière glacée de la Bérézina. De quoi attirer un public qui ne viendrait peut-être pas autrement dans un musée de l'armée.
On vit dans une époque de l'image, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle. Et donc voilà, il faut, je pense, prendre le train en marche, comme on dit de nos jours. Et ben, ça s'y présente bien, ça s'y prête bien. C'est une figure Napoléon qui se prête assez.
Napoléon, l'histoire immersive, s'installe pour au moins 6 mois au musée de l'armée de Bruxelles.